Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
L'intestin tire le meilleur parti de notre alimentation. Tout ce qu'il ne parvient pas à assimiler est évacué.
RTL.
Déroulé et mis à plat, il mesure jusqu'à 8 mètres de long et s'étend sur une surface de 400 mètres carrés.
20h-22h.
Et pourtant, il n'occupe guère plus de place dans l'abdomen qu'un simple ballon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas partie de nos sujets de conversation favoris. Il est même un peu tabou parce qu'on le connaît mal et c'est bien dommage. L'intestin est pourtant notre deuxième cerveau et on va vous expliquer pourquoi avec le professeur Francisca Joly. Bonsoir.
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 Vous êtes gastro-entérologue et nutritionniste à l'hôpital Beaujon de Clichy. Alors l'intestin, c'est un sujet tabou chez les Français ?
Eh bien, pas tant que ça. En fait, on se rend compte que finalement, évidemment, c'est pas un sujet de conversation du soir, mais de plus en plus, on en parle, et on en parle aussi bien quand on est malade de l'intestin, mais aussi quand, pas forcément dans le cadre de la maladie digestive. De plus en plus, les patients en parlent, parce qu'on se rend compte qu'il a un rôle à jouer dans des maladies qui sont pas forcément liées au départ à l'intestin. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus connu.
Alors, on a entendu en générique sa taille près de 8 mètres.
Absolument.
Absolument gigantesque. Ça tient comment dans notre
corps ? Et 400 mètres carrés, mais c'est dingue. À plat, hein.
En fait, rien que l'intestin grêle mesure entre 4 et 6 mètres. Donc, il est tout replié dans le ventre, dans la cavité abdominale. Et lui-même, l'intestin grêle est composé de plein de replis, qui lui-même est composé encore de petites micro-plis, qui fait que ça augmente finalement la surface d'absorption de l'intestin.
Alors, professeur Joly, vous avez cette phrase choc depuis quelques années. Vous dites que l'intestin, c'est un deuxième cerveau. Pourquoi ? Il réfléchit, cet intestin ?
Alors, c'est vrai que le cerveau, comme on l'entend, il a une action propre lui seul. On sait qu'on a besoin de notre cerveau pour faire fonctionner l'ensemble de l'organisme. Et ça a toujours été considéré comme l'organe noble. Sans cerveau, on peut rien faire. Et en fait, l'intestin, lui-même, il comprend des neurones. Un peu comme notre cerveau, il comprend 100 000 millions de neurones tout au long du tube digestif. Et ces neurones, ils ont une fonction, ils sont connectés entre eux et ils permettent à l'intestin déjà de se contracter. Et l'intestin tout seul, même sans cerveau, il est capable de se contracter. Et les grandes nouveautés, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une véritable connexion finalement entre notre cerveau, notre vrai cerveau dans la tête, et notre intestin avec tous ces millions de neurones, et c'est connecté, il y a un dialogue qui se fait entre les deux.
Mais ces neurones, ils ne fonctionnent que pour l'intestin ? Ils ne peuvent pas donner d'ordre à d'autres parties du corps humain.
Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça, puisque les neurones, en soi, la première action, c'est une action locale. Ça permet, par les connexions et par le lien qu'il y a avec les muscles de l'intestin, parce que l'intestin, en fait, est composé aussi de muscles lisses. Donc, il va permettre à l'intestin de se contracter, et on comprend que ainsi notre bol alimentaire, ce que l'on mange, les aliments vont passer tout au long du tube digestif. Et on l'a dit tout à l'heure, l'intestin grêle, il mesure presque 6 mètres. Au total, ça va faire 8 mètres. Pour que tous les nutriments passent, tous les aliments passent, il faut bien que l'intestin il se contracte. Donc il y a une action locale. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on s'en rend compte qu'il peut y avoir une action même à distance par les interactions qu'il y a avec les bactéries de l'intestin.
Attendez, je ne comprends pas bien. La contraction, c'est quoi exactement ? C'est ce qui permet de broyer les aliments ? Ou quand je dis ça, j'ai une énorme bêtise ?
Non, c'est pas une bêtise. C'est, en effet, par exemple, l'estomac, lui, c'est un organe qui permet de malaxer, de broyer les aliments, de transformer avec les sucs gastriques ces aliments déjà dans une sorte de liquide qu'on va appeler chyme, enfin le liquide gastrique qui va arriver tout au long du tube digestif. Mais ensuite, l'intestin, il bouge et se contracte. D'ailleurs, on le sent parfois. Mmh. On sent, on dit tiens, on sent l'intestin travailler. C'est les contractions que l'on sent de l'intestin tout au long, de haut en bas, pour que finalement on arrive à la fin du tube digestif.
Dans votre livre publié chez Marabout, professeur Joly, pardon, l'intestin, notre deuxième cerveau, vous nous racontez que ce qui prouve que l'intestin est un deuxième cerveau et en communication aussi avec notre cerveau principal, c'est que par exemple, avant un rendez-vous, on peut avoir très mal au ventre. un rendez-vous qui nous stresse, on peut avoir des crampes au ventre. C'est quoi le lien, en fait ?
Ça, je peux vous dire qu'avant de venir ici, par exemple, je me suis rappelée, en effet, que l'intestin ne faisait pas que digérer. Et en fait, c'est vrai qu'au quotidien, on en a parfaitement conscience de ce lien entre le cerveau, le stress notamment, qui joue un rôle au niveau de l'intestin, en, par exemple, par le système vague notamment.
C'est-à-dire
qui permet... C'est une sorte de système nerveux qui connecte le cerveau à l'intestin. À l'intestin lui-même.
Et en fait, c'est le cerveau qui envoie une information à l'intestin.
Alors ça, jusqu'à présent, je dirais, on en a conscience, en fait. On se rend bien compte que lorsque ça va pas, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on a un stress, on va avoir des mouvements, un transit qui s'accélère, par exemple.
On dit qu'on a mal au ventre.
Exactement. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a des signaux dans l'autre sens. C'est-à-dire de l'intestin vers le cerveau. Et c'est là où il y a vraiment des choses nouvelles à découvrir.
Bon, professeur Joly, ça va mieux, le stress, le mal de ventre, c'est passé là ?
Ça ira mieux dans une demi-heure, je crois.
Non, parce que vous avez vu, on est des dentistes, mais on opère sans douleur. Donc. Allez, restez avec nous, on continue de vous balader là.
On est bien entre médecins.
Oui, on est bien entre médecins dans vos intestins, les nôtres, enfin tous.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir, on voyage au cœur de notre intestin, cet organe intelligent, qui est donc le second cerveau de notre corps. Grâce au professeur Joly, vous êtes notre guide ce soir dans cet intestin. C'est quoi le microbiote ? Ça a un lien ? C'est un autre nom de l'intestin ? C'est quoi ?
Alors le microbiote, c'est la star... Pour nous, les gastro-entérologues, oui. C'est une grande découverte, en fait. C'est les milliards de bactéries qui composent notre intestin, notamment le côlon, ce qu'on appelle le gros intestin. Mmh. On considérait finalement ces bactéries de manière un peu négative, comme si c'était quelque chose finalement de mauvais pour l'organisme. Et en fait, on se rend compte qu'on vit en harmonie avec ces milliards de bactéries, et que non seulement on vit en harmonie, mais qu'on en a absolument besoin.
Et pourquoi ? Comment d'abord on peut savoir si justement ce microbiote-là, ces milliards de bactéries, ça fonctionne bien ?
Alors, déjà, ça a un rôle qui est majeur, qui est un rôle de barrière. Alors, étonnamment, le fait d'avoir toutes ces bactéries différentes, et donc là, on rentre dans une notion qui est très importante, qui est la diversité. On a besoin d'une diversité de bactéries.
Dans notre intestin.
Dans notre intestin, qui fait que ça va s'opposer à l'arrivée de bactéries qui, elles-mêmes, pourraient être néfastes pour notre organisme. Par exemple, lorsqu'on a une gastro-entérite, on prend un aliment qui est bourré de bactéries qui sont mauvaises, négatives pour notre organisme, une gastro-entérite infectieuse, tout notre organisme va se mettre en marche et nos propres bactéries vont avoir un rôle de défense pour évacuer finalement cette bactérie qui est pathogène, c'est-à-dire négative pour nous.
Qui va créer une maladie en fait.
Exactement. Donc c'est un rôle de barrière et puis les bactéries vont aussi être là pour aider à la digestion, c'est-à-dire à fermenter les aliments qui n'auront pas été totalement digérés par l'intestin grêle qui normalement lui fait le maximum de l'action de l'absorption.
Est-ce que c'est le microbiote qui provoque ce qu'on appelle des gaz ou des flatulences ?
Bah oui, qui dit fermentation dit gaz.
Bah oui. Absolument. Ah, ça y est, je comprends tout. Jusqu'à présent, vrai que lorsqu'on parlait des bactéries de l'intestin, la première chose qui venait à l'esprit, c'était ces gaz, les flatulences. Donc, les gaz, c'est en effet l'action des bactéries. Et donc, finalement, c'est un reflet positif de santé. C'est normal d'avoir des gaz. Et quand une femme vous dira... Je n'ai jamais de gaz, ce n'est pas vrai,
ce n'est pas bon signe, peut-être. Ah non, ce n'est pas possible. Combien on a de gaz par jour, professeur Joly ?
Les hommes peuvent dire ça aussi. Là, d'un seul coup, il y a des conversations qui nous reviennent.
Ça peut aller de 1 demi-litre à l'équivalent à 1 litre de gaz par jour. Et donc, en fait, les bactéries, en digérant les fibres qui ne sont pas facilement absorbées et qui arrivent dans le gros intestin, lors de ce processus finalement de digestion, vont produire des gaz, c'est du méthane et différents gaz qui vont produire donc ce phénomène de flatulence.
Donc quand on a des gaz, c'est qu'on va bien en fait, c'est pas qu'on est malade, on n'est pas malade a priori.
En tout cas, c'est un signe normal de bonne santé.
Et est-ce qu'on est égaux devant les gaz ?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que on mange tous de manière différente. Et donc, il y a des aliments qui vont entraîner plus de fermentation. Et c'est vrai que ces bactéries aussi qui nous composent sont nos propres bactéries. En fait, on a notre propre diversité. Donc, en effet, certains vont quand même avoir une fermentation plus importante que d'autres.
Professeur Joly, pardon Thomas, vous aviez...
Mais je pensais au passage d'antenne avec Marc-Olivier Fogiel tout à l'heure, où on rigolait finalement. On a diffusé quelques bruits de gaz, on s'est marré. C'est vrai que les gaz, les flatulences, ça nous fait gondoler.
Nous fait rougir aussi.
Oui, aussi, mais c'est quelque chose qui... Et vous en parlez très sérieusement. Vous n'en avez pas ras-le-bol que les gens vous parlent des gaz et des flatulences avec une grande banane, un peu goguenard, etc.
Mais en fait, je pense que c'est un sujet dont on peut parler et dont il faut parler parce que pour certaines personnes, ces gaz peuvent devenir douloureux. Mmh. Et là, on rentre dans le cadre de la maladie. Et si on n'en parle pas, finalement, ces personnes ont du mal aussi en consultation, par exemple, à dire, bah voilà, en fait, moi, je suis gênée par ça. Je suis gênée parce qu'en fait, j'ai des douleurs, parce que ça me gêne dans ma vie sociale. Mmh. Et on peut rentrer dans le cadre de la maladie. Et en effet, il faut rester, conscient que c'est quelque chose évidemment de drôle, mais c'est aussi quelque part des éléments importants de la vie des patients.
Professeur Joly, est-ce qu'il faut se retenir quand on a des gaz ? Parce que c'est ce qu'on est tenté de faire parfois, on se dit bon, je n'ose pas trop quand même.
Bah oui,
ou est-ce qu'il faut se laisser aller ?
Bah, pas n'importe
où, puisqu'on
est
en train d'abattre tous les tabous, allons-y. Hein.
Oui, mais enfin, je voudrais que cette émission se termine bien jusqu'à la fin de la saison.
Non, mais c'est mauvais de se retenir, j'imagine.
Dire que c'est mauvais de se retenir, de toute façon, ça risque d'entraîner une douleur. Et qui dit douleur, dit en effet, il vaut mieux ne pas se retenir, oui. Mmh.
Dans un instant, on continuera de parler de notre intestin. Et vous nous expliquerez pourquoi les antibiotiques sont parfois mauvais pour le microbiote, pour notre intestin. Et pourquoi les probiotiques sont peut-être bons ou pas. Ça dépend. On en parle dans un instant sur RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Quelques désagréments à la clé. La production moyenne de 700 ml par jour de gaz malodorant.
Ah, vous dites que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, vous dites que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
La curiosité est un vilain défaut.
À la tête de cette machinerie, le deuxième cerveau, le cerveau intestinal.
RTL.
Plus de 160 espèces de bactéries peuplent l'intestin et contribuent à la dégradation des aliments.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec le professeur Joly, gastro-entérologue et nutritionniste, on se passionne pour notre intestin, qui est précieux évidemment et fragile. Les antibiotiques, c'est le danger numéro un, l'ennemi numéro un de l'intestin.
En tout cas, c'est un des dangers pour le microbiote, donc ces fameuses bactéries dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on a besoin de cette diversité de bactéries. Et pour une raison très souvent justifiée, on a besoin d'un antibiotique. Or, l'antibiotique qu'on va utiliser pour une infection pulmonaire, pour une angine, il ne va pas avoir une action localisée sur un organe. Il va cibler des bactéries. Et donc, lors de la prise d'antibiotiques, tout d'un coup, toutes ces bactéries qui composent notre intestin vont être souvent en quantité diminuée et ça va cibler certains groupes bactériens et on va avoir une modification de cette harmonie, de cette diversité. Cette modification peut elle-même induire des maladies.
Ça veut dire que si on prend trop d'antibiotiques, professeur Joly, on peut détruire complètement notre flore intestinale, notre microbiote. Alors, et quelles sont les conséquences ? On devient fragile ?
Alors, on peut jamais tout détruire, c'est impossible. On en a trop finalement et surtout la composition est tellement complexe qu'on n'arrive jamais à tout détruire. Mais on va modifier en fait la composition globale et tout d'un coup des bactéries qui normalement ne sont pas dominantes peuvent devenir dominantes, représenter une partie trop importante et il existe par exemple une maladie qui s'appelle la colite à Clostridium difficile où cette bactérie qui peut être sous-dominante devient dominante lorsqu'on prend des antibiotiques et devient elle-même négative, néfaste, pathogène pour le côlon et entraîner en soi une vraie maladie.
Et c'est quoi comme type de maladie ? C'est l'estomac qui est gonflé, c'est des diarrhées,
Alors par exemple pour la colite à Clostridium difficile, c'est une inflammation du côlon avec un côlon qui peut même gonfler en effet, il peut y avoir des ulcères, des ulcérations irritation, donc il peut y avoir des saignements, des hémorragies. Et il faut savoir que c'est même une cause de mortalité dans les hôpitaux, puisque c'est l'endroit finalement où les personnes sont les plus fragiles et ont le plus d'antibiotiques.
Alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confronté à ce type de pathologie grave pour restaurer en quelque sorte la richesse de la microbiote?
En fait, vous avez exactement compris
des bactéries dans notre intestin,
comment
pour ceux qui
on doit raisonner maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on avait par exemple la colite à Clostridium difficile, ce que l'on faisait, c'est d'essayer de détruire ce fameux Clostridium. Donc on redonnait des antibiotiques ciblés. Mais finalement, on se rendait compte qu'en faisant ça, certains patients, en fait, récidivaient, c'est-à-dire à l'arrêt, recommençaient à avoir ce Clostridium qui devenait trop dominant. Donc l'idée, c'est de rétablir une diversité. Alors, il y a des choses qui ont été essayées, comme l'utilisation de probiotiques, donc on va pouvoir parler, mais maintenant ce qui est proposé quasiment de première intention pour cette maladie particulière qu'est la colite à Clostridium difficile, c'est de restaurer une diversité de la flore, par exemple en faisant un transfert de flore ou ce qu'on appelle la transplantation fécale.
Ça fonctionne comment concrètement?
Alors concrètement, on va utiliser...
C'est la flore de quelqu'un d'autre?
La flore de quelqu'un qui n'est pas malade, donc on va prendre les selles de quelqu'un qui n'est pas malade. On va évidemment analyser les selles pour être sûr que cette personne n'est pas porteuse elle-même de bactéries qui sont mauvaises. On va analyser, on va filtrer les selles, on va en faire une sorte d'émulsion liquide et on va instiller dans l'intestin du malade cette composition. Et en fait, ça a une efficacité remarquable puisque on a 90% d'efficacité en restaurant finalement une diversité microbienne.
Professeur Joly, vous parliez des probiotiques, antibiotiques, probiotiques, c'est l'inverse les probiotiques? C'est ce qu'on donne avant d'être malade?
Alors les probiotiques, c'est pas l'inverse, c'est autre chose. Les probiotiques, en fait, c'est des organismes vivants.
Des bactéries aussi?
Oui, tout à fait, ou des levures, qui sont étudiées pour arriver dans notre tube digestif, notamment au niveau du côlon. Et normalement, ils ont des effets positifs pour la santé.
Quand vous dites normalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que les probiotiques soient efficaces?
Voilà, une des grandes difficultés pour les probiotiques, c'est de montrer leur efficacité. Et en médecine, souvent, ce que l'on souhaite, c'est avoir des études scientifiques de qualité pour dire, voilà, ce type de médicament a une efficacité. Donc, dans les probiotiques, on manque souvent d'études scientifiques lourdes, mais on a des probiotiques, en effet, qui sont efficaces, notamment pour rétablir une diversité de la flore lorsqu'on a une diarrhée. Donc, on a tous entendu parler de l'ultra-levure, qui est probablement le plus vieux probiotique qui existe.
Qu'on donne souvent avec un antibiotique, d'ailleurs.
Exactement. Dont le but est justement d'essayer de diminuer l'altération de la diversité de la flore qui est induite par l'antibiotique.
Bon, moi, j'ai appris le nom d'une maladie dont je ne veux surtout plus en entendre parler. Vous l'avez retenu?
Allez-y.
La colite à Clostridium difficile. Et ben voilà. Maintenant, on a encore plein de questions. Tiens, par exemple, la mastication, la salive, à quoi ça sert dans tout ce processus? On va les poser à notre invité. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un organe essentiel, capital dans notre corps. L'intestin transforme notre alimentation en énergie. Il est le garant d'une bonne santé. On en parle avec le professeur Francisca Joly, qui est gastro-entérologue et nutritionniste. Alors, on va faire le chemin de la nourriture. Voilà, il y a certainement pas mal de nos auditeurs qui sont à table, en train de, par exemple, mâcher un morceau de pain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça joue un rôle déjà essentiel, la mastication?
Déjà, s'ils nous écoutent, je dis surtout continuer à mâcher, c'est important. Ils vont peut-être pas nous entendre, mais c'est vrai que en fait, la digestion elle commence dès que l'on met l'aliment dans la bouche. Je dirais même que ça commence avant. En fait, on se rend compte que lorsqu'on regarde l'aliment, déjà on salive.
Rien que
le fait d'y penser, on salive. En fait, les phénomènes de digestion commencent très tôt. Et dans la bouche, le fait de mastiquer, finalement, va réduire évidemment les aliments en petites portions. Mais surtout, ça va entraîner la salivation. Et c'est dans la salive, il va y avoir ce qu'on appelle des enzymes. On va dire c'est des petits guerriers qui vont venir aider à la digestion. Et notamment à la digestion des sucres Et dans le pain, en fait, il y a de l'amidon. C'est un sucre. Et on commence déjà à digérer. Digérer, ça veut dire qu'on va couper des éléments qui sont trop gros pour être assimilés par notre organisme en tout petits morceaux.
C'est pour ça que si on mâche un morceau de pain très longtemps, on a l'impression qu'il devient sucré.
Exactement. Le goût sucré qu'on va avoir à la fin, c'est parce que ça commence à libérer des petites particules de sucre.
Alors là, le morceau de pain descend dans l'œsophage, il arrive dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il se passe, professeur Julie, dans l'estomac ?
Dans l'estomac, il se passe beaucoup de choses. L'estomac, c'est et à la fois un réservoir, mais aussi, c'est un endroit où il va y avoir, ça va malaxer les aliments.
Et surtout, mixeur, c'est ça ?
Une sorte de mixeur qui va commencer à broyer ces aliments qui sont pas complètement mâchés. Et surtout, il va y avoir une sécrétion d'acide gastrique, notamment cette acidité qui va venir participer à la digestion. Digestion, ça veut dire, voilà, on va découper tout en petits morceaux, les sucres, les protéines, pour que ça continue à être assimilé par le reste du tube digestif. Pour l'instant, rien n'est passé dans le sang. C'est toujours au niveau de l'estomac.
Alors, à quel moment ça passe dans le sang, justement ? C'est des nutriments ?
Donc justement, c'est une fois que les éléments vont être transformés en sucre tout petit, en protéines toutes petites ou en une forme de graisse toute petite, c'est au niveau de l'intestin grêle que l'absorption des éléments va se faire.
C'est le tout début de l'intestin, c'est ça l'intestin
grêle ? Ça commence au début de l'intestin grêle. Donc dès le duodénum, lorsque la bile va arriver au niveau du duodénum et les sécrétions du pancréas, on va encore avoir des enzymes supplémentaires et les nutriments, ils vont continuer à circuler au niveau de l'intestin grêle et c'est tout le long de l'intestin grêle, qui mesure 4 à 6 mètres, que l'absorption de ces petites molécules va pouvoir se faire et passer dans le sang. Et c'est transformé en quoi, finalement, tous ces aliments ? En énergie, les fameuses calories, ça vient de là. Donc ces éléments vont être utilisés sous forme d'énergie, mais il y a aussi au niveau de l'intestin grêle les vitamines, les oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est le cuivre, le zinc, le sélénium et l'eau. Parce qu'en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que l'intestin, il sécrète une quantité de liquide très importante. On a dit tout à l'heure, l'estomac, c'est 3 litres. Mais la salive, ça va jusqu'à 1 litre par jour.
On salive 1 litre par jour.
Oui, tout à fait. Et à chaque fois que l'on mange, qu'on mastique, on a en effet un flux comme ça de salive qui se fait. Mais de toute façon, spontanément, on salive même lorsqu'on est à jeun.
Donc là, on est encore dans l'intestin grêle. Et quand on arrive dans le côlon, c'est là où se fabrique la matière fécale, c'est ça ? Ce qu'on appelle les selles ?
Oui, parce qu'en fait, finalement, au niveau de l'intestin grêle, il va y avoir le maximum d'absorption des éléments qui peuvent être absorbés. Donc, ce qu'on appelle les macronutriments, les calories dont on a parlé tout à l'heure. Mais va arriver au niveau du côlon un liquide. C'est pas encore totalement digéré. Un liquide qui fait environ 1,5 litre. Donc le côlon, il va aussi avoir une action de déshydratation. Parce qu'en effet, on n'a pas des selles liquides lorsqu'on n'est pas malade. On a des selles qui sont solides. Donc en fait, la première action du côlon, ça va être de déshydrater ce liquide, donc d'absorber l'eau qui n'a pas été absorbée par l'intestin grêle, et finalement de tenter de continuer à digérer ce qui n'a pas été digéré, notamment les fibres, sous forme, et il va rester finalement des résidus.
Professeur Joly, cette digestion là qu'on décrit depuis quelques minutes, ça demande un effort, de l'énergie à notre corps.
Alors c'est étonnant parce que finalement c'est ce qui va nous apporter l'énergie pour vivre. On a besoin de ça.
Oui, puisque ça transforme les aliments, on a bien compris.
Mais ça consomme en soi de l'énergie. Et on sait bien que par exemple après un repas copieux, on a quand même tendance à piquer du nez.
Donc c'est logique.
Et oui.
Donc on s'endort.
On consomme de l'énergie.
Et alors tiens, les dictons qui dordinent.
Alors j'ai toujours eu du mal avec les dictons. Alors qui dort
Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de
si
dîner.
Dormez,
si vous faites une bonne nuit, ça peut permettre de passer le repas, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Sidonie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Oui, je pense que c'est ça.
Ouais, je pense que
et donc
c'est
du
ça
coup,
aussi.
Ça n'a rien à voir avec l'intestin.
Pas du tout. Voilà.
Merci Thomas Hugues.
Mais si, ça peut.
Mais est-ce on que vous garde si... jusqu'à 22h quand même. Ça va être long quand même jusqu'à 22h.
Est-ce que si je mange juste un yaourt, je peux et que je dors, c'est comme si j'avais dîné. Vous voyez ce que je veux dire ?
On vous laisse,
c'était la question la plus débile de la soirée.
Alain Souchon et de Papa Mambo, professeur Joly, pour répondre à Thomas Huc qui a beaucoup de questions sur son sommeil, le dîner, les yaourts et son intestin.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Alors ce soir, on s'offre une balade de santé dans notre intestin avec le professeur Joly, auteur de L'intestin, notre deuxième cerveau. Notre organisme a besoin de tout un ensemble de macronutriments. C'est le mot que vous avez prononcé, professeur Joly. C'est un gros mot pour nous. C'est quoi les macronutriments précisément ?
En fait, les macronutriments, c'est ce qui compose notre alimentation. C'est ce qu'on appelle les glucides, les lipides et les protéines. Alors, les glucides, en fait, c'est les sucres. Les sucres, ça va être 50 à 55% de notre ration alimentaire. Et le rôle principal des sucres, c'est d'apporter de l'énergie, notamment pour le cerveau. Le cerveau a besoin de beaucoup de sucre pour avoir une fonction normale. Les protéines, c'est finalement ce qu'on appelle un peu les briques de notre organisme. C'est ce qui permet à nos cellules de fonctionner correctement. Donc on a besoin des protéines pour bien fonctionner. Et les lipides, bah c'est les graisses, hein, c'est le gras. Donc le gras, finalement, c'est ce qui apporte le plus de calories. Pour vous donner une idée, 1 gramme de lipides dans l'alimentation, ça correspond à, ça va délivrer 9 calories. Alors qu'1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc vous voyez déjà le rapport.
Et 1 gramme de protéines ?
Alors c'est une très bonne question. Alors nous, on se bat parce qu'en fait...
Je pose pas que des questions avec des dictons pourris.
Non, bravo. Je félicite. Donc en fait, les protéines, souvent, on les compte pas dans l'énergie que ça apporte, parce que finalement, c'est utilisé vraiment pour toutes les cellules. Mais sinon, globalement, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories.
Et quand on fait un régime hyper protéiné, ça a été très à la mode, c'est mauvais ?
Alors,
ça marche ? Je l'ai fait.
Le problème des régimes, c'est que déjà, c'est une notion, on va faire un régime. Donc, on se met dans une situation particulière, c'est qu'on considère qu'on va traiter quelque chose. Donc, en fait, ce dont on se rend compte dans l'alimentation, et quelles que soient finalement les maladies, plus l'alimentation est diversifiée, avec finalement des rapports entre les différents aliments qui sont conservés, mieux c'est.
Professeur Joly, comment on explique que certains aliments, pour certaines personnes, soient toxiques, comme le lait ou la farine de blé, ce qu'on appelle le gluten ? Pourquoi notre intestin, certains intestins ne les reconnaît pas ?
Alors, si on commence par le lait, il y a ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Alors, il faut savoir que lorsque l'on est, le seul aliment que le bébé va avoir, c'est le lait. Donc, il a une capacité très importante à digérer ce lait, notamment par des enzymes qui s'appellent des lactases, qui se retrouvent au niveau de l'intestin grêle. Mais en fait, plus on va vieillir, moins on va avoir cette capacité à digérer le lait. C'est quelque chose de physiologique, en fait. Avec le temps, puisqu'on est censé finalement avoir une alimentation de plus en plus diversifiée avec moins de lait, on va avoir cette difficulté pour certains à digérer le lait parce que physiologiquement, on a une diminution de ces enzymes qu'on appelle les lactases. Et pour certaines personnes, c'est probablement trop. Et dès qu'ils vont prendre du lait, le lactose qui n'est pas bien digéré va se retrouver dans le côlon et là, on va retrouver de nouveau de la fermentation, donc les ballonnements, éventuellement de la diarrhée, éventuellement des douleurs abdominales très importantes.
Et pour le gluten, c'est différent ?
Alors le gluten, c'est différent. Le gluten, en fait, on a une vraie maladie qui s'appelle la maladie cœliaque pour laquelle, en fait, on ne peut pas prendre du gluten sans entraîner une maladie de l'intestin. Donc la maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten. Dès que on va prendre du gluten, on va avoir des anticorps, on va sécréter des anticorps qui vont être dirigés vers ce gluten, contre ce gluten, et ça va entraîner une maladie au niveau de l'intestin avec un intestin qui va devenir tout plat, tout lisse, et donc une absorption qui est diminuée. Donc les personnes qui ont une maladie cœliaque, une vraie intolérance au gluten, c'est pas une allergie, c'est une maladie pour laquelle il y a une prédisposition génétique, et on va fabriquer des anticorps contre ce gluten. Et le seul traitement pour ces patients-là, c'est d'arrêter totalement le gluten. Mais de plus en plus, en fait, on parle de régime sans gluten pour des malades qui n'ont pas une maladie cœliaque, voire pour des personnes qui ne sont pas malades, mais qui se sentent mieux sans gluten.
C'est parce le nouveau régime à la mode, ça. Hein. Voilà, je parlais du régime hyperprotéiné, maintenant exactement. C'est le sans gluten. Depuis donc, Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis.
Ce fameux régime sans gluten, il a été beaucoup
et
porté...
Manuel Valls aussi, le Premier ministre, il fait un régime sans gluten.
Alors, c'est vrai que ce fameux régime sans gluten, il a été beaucoup porté par des stars, donc très médiatisé. Et pour des personnes qui n'ont pas cette maladie cœliaque, il faut vraiment mettre... vraiment dans un contexte particulier parce que eux ils ont vraiment besoin du régime sans gluten. Donc quand les gens disent je suis sans gluten, très souvent c'est pas un sans gluten strict, ils diminuent la quantité de gluten et ils se sentent mieux. Pourquoi?
Parce qu'ils mangent moins de pain, moins de pizza, moins de brioche.
Exactement. Le fait de diminuer les aliments qui sont très riches en gluten, bah souvent on a une fermentation qui est diminuée et donc on se sent en effet mieux d'un point de vue digestif.
Et chez les enfants, est-ce que l'intestin est responsable d'allergies, d'asthme? On a lu ça dans votre livre publié chez Marabout.
En fait, ce qui est très important finalement, c'est de se dire tout se joue dans l'enfance. Les bactéries qui vont nous composer, qui vont être notre identité en tant qu'adulte, tout va se jouer, on va dire, entre 0 et 4 ans. C'est à ce moment-là que la diversité de nos bactéries va se mettre en place. Et on se rend compte que si, par exemple, lors de cette période très particulière, l'enfant va avoir une agression extérieure, notamment beaucoup d'antibiotiques dans la petite enfance, ça peut être un facteur qui va... décompenser un petit peu cette diversité de la flore et qui pourrait être responsable à long terme finalement de maladies puisqu'on suspecte de plus en plus le rôle de ces bactéries dans l'intestin avec des maladies qui n'ont rien à voir forcément avec l'intestin.
C'est pour ça aussi qu'on ne doit pas diversifier l'alimentation des nourrissons trop tôt, c'est pas avant 4 mois il me semble.
Exactement. En fait, il faut finalement protéger le nouveau-né, l'enfant en bas âge d'une stimulation trop importante par ce qui pourrait constituer des vrais allergènes, mais aussi par tout ce qui pourrait un peu diminuer la diversité de la flore. Donc il faut utiliser les antibiotiques dans la petite enfance vraiment quand on en a besoin et puis respecter finalement la diversification alimentaire.
Merci infiniment à vous, professeur.
Merci Jolie, beaucoup.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'intestin, notre deuxième cerveau aux éditions Marabout.
J'ai un dernier dicton nutritionniste, non, qui va à la chasse, perd sa place. Et...
ah, il faut que je m'en aille, en fait, c'est ça.
Bravo.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.